après les fils. Il faut d'abord que les fils la reçoivent pour que les pères la reçoivent aussi. C'est tout un problème qu'on étudie dans la paracha de Pinchas. Les pères ont fait hériter leurs fils de la promesse et les fils ont fait hériter leurs pères de la terre. Non, c'est pas un problème d'état civil. D'ailleurs, il faudrait dire les fils deviennent des pères. Mais c'est pas un problème d'état civil. C'est un problème d'identité différente. Et je crois que seuls ceux qui l'ont expérimenté déjà dans leur existence peuvent comprendre intellectuellement. On ne peut pas expliquer avec des mots. Il y a une manière d'être qui consiste à être un être de promesse, un être père, qui n'existe que par délégation pour l'être fils qui est l'être d'accomplissement. Et une manière d'être être d'accomplissement, et puis il y a incommunication entre les deux. C'est pourquoi seul Élie le prophète peut arriver à les réconcilier. Vous savez que c'est le dernier verset de la prophétie. Véchi, levavot, albani, velevani, malavota. Et je crois personnellement. Un des indices qui peuvent nous confirmer de plus que nous sommes dans le temps de la fin des temps, c'est que c'est le problème de la génération. La difficulté de relation entre les pères et les filles, à l'échelle microscopique de notre état civil, c'est le problème de la génération contemporaine. Est-ce que c'est clair? Mais je vais vous donner une petite parenthèse pour un peu élargir la question. Nous avons vécu dans la diaspora, dans l'identité être père. Nous étions des haos. C'est-à-dire, nous avions une promesse. Je pense que c'est clair. C'est revenu avec Israël dans la dimension d'une promesse. Au point que beaucoup d'auteurs juifs ont fait cette espèce de faux sens, avec bonne foi, d'appeler avec Israël la terre promise. Bien, pour faire Yoli, la terre de promission. Ça, c'est André Chouvache. Alors que ça n'existe pas dans la Bible, la terre promise. C'est la terre jurée. C'est la terre donnée. La terre promise, ça va chercher ailleurs, ça. C'est une toute autre mentalité. Okay? Et une terre promise reste promise pour être authentique. Vous voyez ce que je veux pas dire? Alors, le Messie qu'on attend. Alors, Rohenjek, attends-le. Mais la vous voyez le changement de registre qui est très grave. Vous ne trouverez pas trace dans le vocabulaire biblique de la terre promise. C'est « et ça arrête sa chair nishbarti » la terre que j'ai juré de donner. Elle est donnée par serment, elle n'est pas promise. Parce que promise, ça voudrait dire qu'il y a des conditions pour l'obtenir. Il n'y a pas de condition, elle est donnée. Il y a une seule condition, il faut y aller. « Daver ben Israël, veïsla » Vous vous rappelez ce que je vais. Et alors, de quoi je parlais? Je parlais de beaucoup de choses à la fois. Tiens.
Elle a fait
le juré, proposition
du
pays. Non, c'est pas
si bien que ça. La traduction de mémoire, c'est chaque endroit qui se mettra les pieds, moi je te l'ai juré, elle est déjà à toi.
Avec c'est Abraham.
Deux inversions de verbe.
D'accord, mais attendez, mais quel est le verbe hébreu qui est traduit là par le rabbinat ou dehors? Ça dépend parce qu'il y a trois verbes différents. Et il y a des versets où ça veut dire qu'on tient. C'est même. Ça dépend quel verset ça traduit. D'ailleurs, ça se rattache à tout un problème que Rashi enseigne dès le début de la Torah, où il est nécessaire que le premier chapitre de la Torah soit mis par écrit dans la Bible, pour que les Goïm, dit Rashi, en citant une vache, apprennent comment il faut recevoir la terre que Dieu donne. Parce que la contestation des Goïm, c'est vous l'avez conquise. Si elle vous est donnée, attendez-la en héritage, sur un plateau du Golan, par exemple. Le plateau, je t'ai. Mais la contestation des Goïm, c'est pas que cette terre appartient à Israël, ça ils savent. C'est que nous l'avons conquise, dit le Midrash. Alors il était nécessaire d'écrire le premier chapitre de la Torah où on apprend comment Dieu donne la terre à qui la donne, au premier homme, qui se rappelle du verset. Vous avez un chumash? Premier, ça c'est dans Rachid. Premier chapitre, verset 20. Il est ouvert. Comme ça, il verra que c'est pas moi qui dis. Là, non, tu t'es trompé le verset, toi. Remplissez la terre et conquérez-la. Alors voilà ce qu'il nous dit là. Quand Israël sortira d'Égypte au temps de Josué et voudra rentrer dans le pays de Canaan, il faudra le conquérir. Alors les Goïms vont s'opposer en disant L'istimatem shikabashtem arto shiva goïm. Vous êtes des brigands parce que vous avez conquis la terre des 16 peuples. Et nous dit Rachid, c'est pour ça qu'il fallait écrire au commencement Dieu créa le ciel et la terre et la terre. Pourquoi? Pourquoi il faut passer par un raisonnement si compliqué que explique Rachid par la suite? C'est Dieu qui a créé la terre, il la donne à qui il juge qu'il faut la donner. Okay? Parce que, en réalité, si on voulait citer un verset de la Bible, clair, au Goïm, qui considérait un verset de la Bible comme une autorité, l'ONU, disons, eh bien, il suffirait de citer tous ces versets de la promesse au patriarche. C'est à vous, Israël, fils de Jacob, d'Isaac et d'Abraham, et pas seulement vous d'Abraham ou d'Isaac, mais Abraham, Isaac et Jacob, et avec les Juifs, que la terre appartient. Non, c'est pas ces versets qu'on cite. Pourquoi? Parce que les Goïms sont d'accord que la terre nous appartient. La preuve, c'est qu'ils appellent ça la Judée. Qu'est-ce que les Juifs vont faire en Judée? Vous voyez que... Non, ce qu'ils reprochent à Israël, c'est d'avoir conquis. Parce que dans leur mentalité, une terre promise par Dieu doit être reçue des mains de Dieu. Alors attendez que le Messie vous la donne sur un plateau. Okay? Et voilà que vous êtes venus. Je parle du temps de Josué et pas des événements contemporains, ne sont que des coïncidences. Et vous êtes venus et vous l'avez conquis. Alors Israël doit répondre, ah vous croyez dans la Bible, alors lisez ce qu'il y a écrit. Voilà quand Dieu a donné la terre au premier homme, qu'est-ce qu'il lui a dit? Milou et Taharet, remplissez la terre et conquérez-la. Alors, la difficulté du verset, c'est l'ordre des mots.
Remplir et conquérir.
Il faut d'abord conquérir avant de remplir. Et regardez ces Juifs comme ils sont malins. Ils remplissent d'abord et conquièrent après. Vous avez remarqué ça? Bon, alors vous voyez que ça sert à rien. On a beau connaître la vérité, l'égoïne peut être l'égoïne. Vous êtes des brigands, puisque vous avez conquis la terre de Saint-Saëns. C'est qu'ils ont d'autres raisons. Et c'est pas seulement le pétrole. Je vais rappeler une blague que je dis aux élèves sur ce Rachid. Le mot employé par Rachid, c'est un mot de l'hébreu rabbinique qui vient du grec. L'istim, ça veut dire des brigands. Et bien, c'est le même mot duquel on nous accuse aujourd'hui. Seulement, on ajoute impéria, l'istim, colonia, l'istim, capita, l'istim, mais c'est toujours l'istim. Et étonnez-vous de la prophétie de Rachid d'abord.
Il y a une amie qui me reproche non pas que l'istim est vrai.
Et
moi, je ne suis pas
pour la famille. Et vous dire, c'est un autre problème, vraiment, on n'est pas en meeting sioniste. Mais. Simplement. Essayez de comprendre que ce qui s'est passé, relisez le livre d'aujourd'hui, et l'histoire contemporaine. Ce qui s'est passé, c'est que les non-frontières d'Israël ont été élargies. À la suite des guerres qui ont été déclenchées de l'extérieur contre Israël. Vous avez remarqué ça? Mais c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Et alors, ceci dit. Je pense peut-être qu'il a tort, parce que ça dure et c'est long. Mais vous voyez ce qui se passe chaque fois. Essayez de revivre ce qui s'est passé à la génération précédente, comment ça s'est passé tout ça. Je vais vous raconter une petite anecdote du problème que nous avons avec ces gens qui posent ces questions. Je ne sais pas s'il y a des Juifs ou pas votre ami, mais ça n'a aucune différence. Il y a aussi des Juifs comme ça. Israël est un État, donc il agit comme les autres États. Et puis vous leur sortez pas ça de la tête. Puisqu'Israël est un État, eh bien donc il se passe en Russie, il se passe en Chine, etc. Et vous leur enlevez pas ça de la tête. Vous n'allez pas leur dire rien voir. Rien voir quoi? Israël est un État, donc. Et c'est clair. Vous savez, on ne peut pas répondre à une idéologie. Surtout lorsqu'elle est figée, orthodoxe, passionnelle et. Bah oui. Alors que l'histoire qu'on raconte dans les journaux israéliens, chaque fois qu'on reçoit un discours comme ça de l'étranger, et c'est un peu mal poli, mais je vais dire ça poliment, ta sœur est. Tu sais ce qu'elle est. Elle a voulu dire, j'ai pas de sœur. Elle est quand même. Vous voyez le problème? Ça y est, c'est clair. Voilà ce qui se passe. Alors, je voulais répondre à des studios de papier. La preuve, c'est que si tu en avais une, c'est sûr que. Puis, voilà. Bon. Alors maintenant, vous comprenez, non, c'est pas une blague, c'est la vraie réponse. Il n'y a pas de dialogue possible. Impossible. Donc il faut chercher les raisons pour lesquelles on pose ces questions. Et je pense que c'est comme pour le problème de l'antisémitisme, derrière tous les intérêts évidents de l'hostilité à Israël, revenant sur sa terre, c'est donc une raison encore beaucoup plus profonde que tout le reste. Et c'est ce fait que je veux dire simplement en survol, et c'est ce fait qu'il semble que l'humanité entière, pour des raisons mystérieuses, et peut-être pas si mystérieuses que ça d'ailleurs, considère cette terre comme la terre de refuge. Et il la réclame. Et les empêcheurs de tourner en rond, c'est les Juifs. Donc, à rond sur le mot des fiables. Vous voyez ce que je dis? Et alors, il y a effectivement quelque chose derrière. Moi, ça m'a beaucoup frappé quand j'ai étudié l'histoire du nazisme, d'avoir l'obsession qu'avaient les nazis d'occuper Israël. Une obsession. Maintenant, c'est les Russes. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière? On le saura un jour. Non, pas longtemps. Hein. Et il y a une autre question là-dessus, je reviens au problème. De quoi on parlait juste avant?
Sur la notion de promesse, on était parti des 400 ans.
Ah oui, oui. Oui, oui. Oui, je voulais corriger la notion de terre promise, qui avait parlé comme ça. Et alors, en fait, donc je reviens au premier point, c'est que, et là où j'étais arrivé, c'est que, en tant que juif de diaspora, ben, nous avons vécu la relation avec Israël à la manière père, promesse. Et finalement, il y a un verset qui dit « Veshavu banim l'goulam » et c'est ce qu'on chante dans les mouvements de Genève. Je traduis « Veshavu banim l'goulam » et les fils reviendront à leurs frontières. Mais ce n'est pas une question d'état civil, c'est une question d'ontologie, de manière d'être. Ceux qui ont l'être fils reviendront. Parce que ceux qui ont l'être père, c'est l'être de promesse. Est-ce que c'est clair? Alors le paradoxe, le bilboule du langage, c'est que ce sont les juifs de diaspora qui sont dans la modalité être père, qui parlent des Israéliens comme étant ceux qui vivent sur la terre des ancêtres. C'est inversé. Est-ce que c'est clair? Oui, inversé. Alors je pense que ce verset que je vous ai cité, c'est le dernier verset de la prophétie de Malachi, concernant la relation entre être père et être fils, les chives, les rabots, les abanim, les levalim, les rabotam, que seul Élie le prophète peut le faire, cela. C'est ce problème-là. Parce qu'il y a une sorte d'incompatibilité, de compréhension, de dialogue, de parole entre l'être père et l'être fils. Laissez le vocabulaire chrétien de côté, c'était un autre problème. Hein? Dieu le père, Dieu le fils, c'est une autre histoire. Mais si on a bien compris cette différente manière d'être, et je ne sais pas moi comment expliquer ça avec des mots, je ne sais pas. Il faut expérimenter ça dans l'existence. À partir du moment où on a un enfant, alors on comprend la différence, ou on ne comprend pas, mais enfin, ce n'est pas avec des mots. C'est une expérience. L'être père vit par délégation pour l'être fils. Et l'être fils, c'est un être de l'accomplissement de l'être père. Et puis ça passe les générations. Mais au-delà de la relation des générations, les fils deviennent des pères, ils oublient que ça voulait dire avoir été fils. Alors ils ne sont pas des pères tellement pères qu'elles. Et en fait, ça engendre une génération, parce qu'entre le grand-père et le petit-fils, s'installe une relation beaucoup plus vraie. Vous voyez un peu ce que je veux dire. J'ai moi-même expérimenté, c'est quand j'ai eu mes petits-enfants que je me suis rendu compte que ça voulait dire avoir des enfants. Jusque-là, on joue à la poupée. Ouais, mais les petits-enfants, ça nous fait comprendre qu'est-ce que c'est que les enfants. Et alors, là, finalement, il y a une impossibilité de dialogue, Et il faut élire le prophète pour faire la relation. Alors je crois qu'on pourrait dire à la limite qu'on a besoin d'élire le prophète pour réconcilier Israël et la diaspora, c'est-à-dire l'être père et l'être fils. Mais comment est-ce qu'on peut savoir où est l'être père et où est l'être fils? C'est clair. Comment? Ben, attends, j'ai pas entendu, pas plus. Mais oui, c'est ce que j'ai dit juste avant. Il y a un problème général de la difficulté de communication entre les pères et les fils. Mais il se dévoile de notre temps de façon très aiguë. Donc, c'est peut-être que nous sommes au temps des luttes prophètes. Vous voyez, ceci dit, comment ça se particularise dans l'histoire d'Israël, très probablement dans l'impossible dialogue entre la diaspora et Israël. Parce que finalement, qu'est-ce que l'être fils d'Israël dit à l'être père de la diaspora? À quoi vous rêvez encore? On est déjà en train de construire. L'être fils est déjà commencé. Et alors, qu'est-ce que dit l'être père à l'être fils d'Israël? Qu'est-ce que vous construisez? C'est pas notre rêve. Vous voyez, l'impossibilité de se parler. Est-ce que c'est clair? Bon, donc il faut élire le prophète.
C'est un peu de fond.
Il n'est pas bien compris. Répétez.
Je veux dire, ce que vous dites, les uns disent, qu'est-ce que vous cherchez à faire? Les autres disent,
c'est
pas ce que nous voulions. C'est ça, oui. C'est ça, c'est un problème.
Ah oui, oui. Tout à fait. Que vous savez ce que dit le psaume? Béchou, Vachem, Messieurs, Sion, Haïnou. Alors il y a ceux qui continuent à rêver, et nous qui rendons. Et puis ceux qui ont déjà d'autres rêves. C'est le fond du problème. Et moi je vous dis très honnêtement, je ne connais pas de solution. Il faut élire le prophète. C'est ce que disent les artistes. Ok?
C'est un problème, mais c'est le partage de la terre alors qu'il faut encore. Ils
n'ont
jamais vu
cette
terre, elle a été promise à leur père, et
ils se
la partagent.
Qu'est-ce que ça veut dire que la partage?
Je veux dire que...
À la sortie d'Égypte,
la
vous
voulez dire? C'est
un
partage, alors que...
Oui, mais... vous retiendrez que ce partage... Et c'est avant. Mais ce partage a été fait au sort. C'est-à-dire que... Au Goral. C'est-à-dire qu'on a d'abord compté le nombre des descendants. On a rapporté le nombre des descendants au nombre des chefs de tribu, ce qui fait que ça attribue à chaque tribu une partie de la terre. Mais quelle partie chaque tribu avec son nombre va... Ça a été un tirage au sort. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à ta question, mais en fait, ça se rapproche un peu, quoi. Parce que j'entends une autre question derrière ta question. C'est important de voir que ce sont, d'après le nombre des fils, que les pères ont un héritage qu'ils donnent à leurs fils. Oui, oui. Oui, c'est les fils qui font hériter les pères, et après ils héritent de leurs pères. Je crois que j'ai dit l'inverse tout à l'heure.
Non.
Alors vous verrez, c'est une question dans le cifré sur la paracha de Pinhas. Oui. C'est ce qu'il faut comprendre. Justement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce que c'est que l'exil? C'est l'exil d'une terre. Vous comprenez? Ça veut dire que la situation d'exil, c'est la situation d'être en exil d'Eretz Israël et pas d'être en exil en Amérique ou ailleurs. La définition est très différente. Qu'est-ce que c'est un exilé? C'est un exilé de sa terre, pas un exilé dans l'autre. Que les pères n'ont pas eu, mais parce que ils sont l'être de promesse. Mais cet être de promesse est donné aux enfants, à Gernatat. Et puis, je crois que le verbe est plus important, Mishra. C'est une terre jurée, c'est pas une terre promise. Parce que dans cette idée de promise, encore une fois, il y a des conditions. Non, il n'y a pas de conditions. Pas du tout. Il faut lire la Bible en hébreu.
J'ai constaté depuis tout à l'heure, on
n'est
qu'une histoire
du terme promis. Par exemple, oui. Et remarquez une chose aussi, c'est que ces impropriétés de vocabulaire, au fond, ne sont pas des hasards. ça traduit des doutes d'identité la plupart du temps. Parce que ça se relie plus profondément, j'ai essayé de formuler ça comme ça, quand par exemple un juif pieux nous dit « Eh mais c'est bien qu'il faut y aller dans la Terre Sainte, mais peut-être je ne mérite pas, elle est trop sainte. Qu'est-ce que tu as mérité ? Je ne comprends pas le problème. Quel problème de mérite ? Est-ce que c'est clair ce que je dis là ? C'est un problème de à quel moment de la loi des temps nous sommes. Est-ce que nous sommes dans la loi des temps de la dispersion, dans les temps de la dispersion ou dans les temps du retour ? C'est ça le vrai problème. C'est pas un problème, je mérite pas. Parce que, je sais pas comment vous dire, la relation entre un fils et son père, c'est pas une histoire de mérite. C'est le fils et c'est le père. Alors quand le père donne au fils, c'est à son fils qui donne. Il a mérité avant de naître parce qu'il a choisi d'être son fils avant la naissance. Si je veux dire. Alors, c'est quelque chose qui vient d'une mentalité religieuse, finalement extérieure à la tradition de la vie. Et alors, vous avez énormément de culpabilité inutile dans la mentalité juive de l'Église. On a pris sur nous des doutes et des culpabilités invraisemblables. Oui, sans aller jusque-là, mais enfin, c'est une espèce d'habitude à ce doute. Est-ce que je mérite ?
À moins que ce soit comme des fiançailles dans un sens de.
C'est ça.
Alors là, c'est
ça, vous avez bien. Non, mais c'est un sens grave.
Oui.
Parce que le doute, ça veut dire est-ce que je suis Israël ? Ah, c'est grave ça. Si un juif doute qu'il est Israël ou pas, alors c'est un doute d'identité. Ça, c'est beaucoup plus grave. Et c'est arrivé à la sortie d'Égypte. Vous vous rappelez le fameux passage de Béchalach, qu'on dit d'ailleurs le jour de Pourim ? Okay. Quand les Hébreux ont douté, ils ont dit « Ayesh Hashem Bekirbenu Imaï, il va y avoir Amalek ». Dès que les Hébreux se mettent à douter, Amalek surgit. Nous avons souvent parlé de ça. Oui. Oui. Praticable. Je vous réponds.
Est-ce que le dilemme n'est pas quelque part voulu ?
Je vous réponds. C'est un faux problème. Parce que la question ne se pose jamais que pour un juif à la fois. Et pour un, je vous assure à la place. Vous occupez pas de vous. Allez, je vais me raffiner, c'est encore une place, mais je crois. C'est absolument un faux problème. Je ne comprends pas. Allez. Bien. Attendez. Il y a apparemment une mission des juifs chez les Grumes. On revient à Jacob chez là-bas. Bon. Mais si le temps de la mission a fini, okay. Alors le doute de Jacob, c'est peut-être qu'elle n'a pas fini. Donne-moi la permission. Okay. Mais c'est les femmes de Jacob, les mères d'Israël, qui ont été les prophétesses. Et elles ont dit à leur mère, qu'est-ce que tu attends ? Ça va pas ? Le beau-père, le papa, là, le beau-papa, il nous aime plus. Alors vite. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça.
Voilà. Toujours à attendre.
Alors, parce qu'on arrive à la question que j'ai posée, on n'est pas encore répondu. J'étais juste à la première partie. Okay. Qu'est-ce qui s'est passé dans la cavana de Jacob ? Mais d'où ça vient ? Exactement, c'est aussi. D'où ça vient ? Alors, ne me donnez pas une réponse négative. Il ne faut pas calomnier les gens. Les allocations familiales, les produits, la résidence secondaire, tout ça, c'est des calories. Tout le monde sait que les juifs sont des affaires. Bon. Mais la réponse aussi. C'est un faux problème. Le problème de notre relation aux goïms, si nous avons une mission, c'est pas une histoire d'hostilité, ça on a pris les risques. Ça c'est intérieur à la question. Et je vous assure, je vais vous donner la réponse, mais ne croyez pas que c'est de l'humour noir de ma part. Et la réponse positive existe. De quel ordre la structure ? Mais est-ce que c'est nécessaire que Jacob soit otage chez Laban qui ne l'aime pas pour qu'il réalise cela ? Est-ce qu'il ne peut pas le faire de Jérusalem avec les mass médias maintenant ? Vous croyez qu'il y a un faux problème derrière ? On s'est habitué à une inertie d'une situation provisoire qui s'est inversée en critères. il faut faire sauter, c'est des faux critères.
Au fond, on apprend autant en raisonnant ensemble qu'en se transmettant des versets.
Il y a une question de raisonnement qui n'est pas hébreu, je ne sais pas comment dire.
Comprenez ce que je veux dire? On a transformé le contingent nécessaire, le principe en conséquence, l'implication en postulat, et tout est à l'envers.
Il a fait un contrat de 21 ans, il a à signer le contrat, enfin, est-ce que ça n'est pas une obligation à partir de
ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Oui. Mais quand Jacob voit que le contrat est rompu, parce qu'il y a des clauses à un contrat, dans la porte de contrat, pourquoi il tarde? Et heureusement pour lui, ses femmes, qui n'avaient pas eu les pionnières. Qui peut répondre? Eh bien, je mettais les choses au niveau élémentaire. Ma. Ah, mais ici, c'est pas la relation de Jacob et ses filles, c'est la relation de Jacob et son beau-père. Alors? Ben, je crois, je vais vous donner la réponse. Je crois, et c'est perceptible, il y a dans l'identité juive, et nous tenons ça d'une hérédité hébraïque très profonde, un amour de l'universel humain qui nous a rendus aveugles. Vous avez entendu parler de l'amour aveugle? Bon, il y a une espèce de dimension de chassid choté, comme nous disons, qui est hypertrophiée dans l'identité juive et qui arrive à des torsions de l'amour, de la conscience morale, et pour un diable, sans le bien de l'ancêtre Abraham. Voilà. Mais ça, il faut bien y réfléchir, parce que je crois que les deux dimensions existent. Et la dimension négative de l'intérêt, ça, on va accuser les Hébreux de sortie d'Égypte qui voulaient retourner en Égypte, les pots de viande. Vous vous rappelez, cachère ou pas cachère, c'est pas le problème. Mais il y a une dimension positive. Et une espèce de tri d'identité qui se fait. Et alors, on n'a pas le droit de, comment dire, d'ultimatomiser quiconque, de provoquer le prix. Il n'y a que l'ultimatum qui nous attend au tournant, l'atome ultime, vous voyez ce que je veux dire. Ultimatum en deux mots. Mais il faut avoir les yeux ouverts et voir ça lucidement. Et de plus en plus, me paraît suspect l'humanisme juif dans notre temps. Il y a eu des temps où c'était pas suspect. Mais dans notre temps, un humanisme juif cosmopolite, alors qu'il se passe ce qui se passe, ça devient suspect. Qu'est-ce qui se passe là derrière? Vous avez compris ce que j'essaye de ne pas dire? Oui.
On est tournant. Par rapport à la promesse qui a été faite.
Mais tu reviens au cas précédent.
Non,
c'est notre histoire pendant 2000 ans.
Non,
mais dans la mesure
où dans l'instant,
on a
l'accès à la terre, il y a un peu compliqué, là.
J'essaie de vous dire quelque chose qui n'est pas visible. Parce que c'est une erreur qui est faite. On croit que l'étape où on doit arriver, c'est le point final. C'est un commencement. Il y a d'autres rêves, il y a d'autres espérances. Mais celle-là, elle est intégrée. Et alors, rester dans cette espérance antérieure, c'est un phénomène de caducité. Et moi, je ne vois pas les choses autrement. On peut dire ça aussi comme ça. Mais, en tout cas, il y a une espèce de danger que l'être père ne devienne un être préhistorique. Vous comprenez? Pardon? Écoutez, je vais vous dire une chose, moi ce qui m'inquiète, c'est que nous avons un autre exemple, c'est la chrétienté, qui à sa manière, à un certain niveau, se considère comme une diaspora d'Israël. Et alors, est-ce que dans le temps contemporain, et il n'y a pas une situation formellement, objectivement analogue entre la diaspora juive caduque et la chrétienté. Bon, ça c'est un incident, disons. D'accord, c'est un clin d'œil. Mais c'est le bon Dieu qui fait incognito. Bien. Mais par conséquent, ta réponse ne suffit pas. C'est qu'il y a quelque chose d'autre. Il y a, je pense, cette différence entre l'être père et d'être fils, et qu'il faut aller à mon avis pour les réconcilier, pour les...
Ah, c'est un tout un problème. Non, c'est un tout un problème. Et vraiment très différent. Parce que, attendez. Parce que là, il n'y a pas de comparaison possible entre l'islam et la diaspora juive. Parce que l'islam ne s'est jamais considéré comme Israël. Alors que la chrétienté s'est considérée comme Israël. C'est très différent. C'est d'autres choses. D'autres choses. Et si vous voulez, je réponds là très très brièvement, à travers le Maharal, sur le problème que nous avons posé tout à l'heure. Et c'est ceci. Le Maharal va poser la question suivante. Pourquoi tout simplement, disons, il y a 130 ans, vous vous rappelez quelle était la date? C'est le jour de la vision, enfin, c'est pas une promesse, c'est une catastrophe. De la vision de Brick de la Bétharine, où Dieu dit à Abraham, mais puisque c'est comme ça, tu sauras que. Mais surtout à partir de la naissance d'Isaac, on aurait posé la question suivante. Mais pourquoi Abraham n'est pas descendu pour commencer l'exil, mamache, vraiment, qui est un pseudo-exil israélien? Pourquoi Isaac n'est pas descendu vraiment? Et Maharal donne une réponse très importante. Il dit parce que la promesse de la terre est liée à l'exil. Seule la descendance d'Abraham qui connaîtra l'exil aura la promesse de la terre. Et après, j'analyserai autrement. Mais d'après notre sujet, si Abraham était descendu en exil, Ishmaël aussi aurait eu la promesse de la terre. Alors Abraham ne descend pas. Si Isaac était descendu en exil, Ésaü aussi aurait eu la promesse de la terre. Alors Isaac ne descend pas en exil. Seul Jacob descend en exil, c'est les descendants de Jacob qui ont la promesse de la terre. Très important. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire? Eh bien, que la descendance d'Ishmaël a voyagé partout, mais jamais en exil, en conquérant. La descendance d'Ésaü a voyagé partout, mais jamais en exil, en conquérant. Seule la descendance de Jacob a connu ce que c'est l'exil. Et vous voyez donc le problème. Par contre, c'est pas le problème. La descendance d'Abraham, c'est un autre procès. C'est une autre contestation. Et elle n'est pas reliée à notre sujet directement. J'irai même jusqu'à dire, alvaï, que la diaspora juive devienne islam et pas chrétienne. Si vous n'avez pas compris, c'est pas grave, mais je sais ce que dit. Alors, revenons. Okay. Oui, alors écoutez, le mot hérité est employé en français dans les deux sens. Mais en hébreu, il y a deux mots différents. C'est-à-dire, ce sont les fils qui font que c'est au père qui a été promis l'héritage des fils. Ce sont les fils qui font que leurs pères sont des pères. Et alors maintenant que les pères sont des pères grâce aux fils, les pères donnent l'héritage aux fils. Voilà. Parce qu'en hébreu, il y a deux mots. Regardez bien dans le cifré, c'est de Pinchas. Il y a Nahara et Yerusha.
Alors, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est également Israël. Israël, c'est les fils, et la diaspora, c'est les pères.
J'ai dit que tout se passe comme. Ouais. Alors, je veux dire pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de pères en Israël, il y a beaucoup de fils en Angola. C'est en train de rentrer.
Justement, on a pas dit, oui. Vous
avez compris ce que je veux dire?
Ou
de la non-Aliya.
Non,
regardez pas à côté. C'est les juifs. Et la terre d'Israël appartient à tous les juifs grâce aux Israéliens.
La question de l'Aliya, c'est pour ça la même perspective.
Alors je vais vous dire, la réponse elle est très simple. Il y a des pères qui sont empêchés de devenir des fils parce qu'ils ont déjà des fils. Alors qu'ils envoient leurs fils. C'est pas plus compliqué que ça.
La question d'envoyer,
il s'agit des choses. Il s'agit, comme madame a dit tout à l'heure, d'un problème très profond d'identité. Mais comme nous sommes dans des générations de transition, il ne faut pas chahuter le temps. Mais est-ce que le temps nous laissera le temps? C'est un autre problème. Voilà le fond du problème. Vous comprenez? Mais tu as dit quelque chose d'important tout à l'heure. Dès qu'il y a des juifs qui sont devenus israéliens, il reste Israël, ça appartient à tous les juifs.
Absolument.
Bon. Eh bien voilà, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord.
Ils ont tous les juifs en Israël.
En puissance. mais il faut régulariser ça au ministère de l'Intérieur en France.
On n'est pas forcément là pour rendre avec les mêmes officiers, on ne faut pas faire des simulations, c'est que chacun a affaire son chemin pour lui.
Je suis tout à fait d'accord. Ma seule inquiétude, c'est pas celle-là, c'est qu'il y a une urgence des deux côtés. C'est qu'il y aura ces filles, c'est trop de faire. Et c'est deux problèmes différents.
Mais effectivement, on est à l'époque où les filles et les pères.
Nahon, je pense que c'est arrivé depuis quelques années déjà de façon grave. Absolument. Et c'est pourquoi, encore une fois, il faut Eliyahu HaNavi. Bon. Et je veux dire ce qu'il dit la Gemara. Eliyahu HaNavi ne vient pas pour dire ça c'est cachère, ça c'est pas cachère. On n'a pas besoin de lui pour ça. Il vient pour réconcilier les fils et les pères. C'est un tout autre problème. Vous avez compris ce qu'il y a derrière. Alors, revenons.
Alors, le principe de cette situation qui en fait est très optimiste, c'est que le danger vient de ceux qui sont animaux qui sont définitivement dans la vie. Parce qu'il n'y a pas de. Il y a ceux qui vont se trouver en dehors, ceux qui vont réaliser que définitivement, parce qu'ils sont en dehors de cette
situation. Tu as raison, mais le rapport nous a répondu avec un enseignement sur la Hagala qui est très joli. Vous savez qu'il y a quatre précis. Et le Hacham, le Rachar, le Tam et le Sheno et le Derichon. Je prends juste le Rachar. Au fond, c'est le fils qui ne veut pas être fils. Et alors, le rapport nous a expliqué là. Ça peut s'arranger. C'est ça peut s'arranger. Non, tu as raison, ça peut s'arranger. Ça veut dire la même chose. Et alors, le Rafouk explique la réponse de la Gada pour le Rachar. Il dit, Barabou, Zé, Asa, Hachem, Li, de cette île, Israël, Li, Vélolo, Zéil, Wayacham, Wayanigal. Je vous dis en français, l'argument du Rachar, ça consiste à dire, Ma, Aodazot, Lachem. Qu'est-ce que c'est que cette histoire à vous? Vous. Il se met en dehors. Vous, et pas lui. Alors on lui répond, eh bien c'est pour moi que Dieu avait fait au moment de la sortie d'Égypte, lui est parti, moi et pas toi. Alors, il faut expliquer une très jolie chose. Il a dit, comment dit la Agada? Et ça veut dire, Ilou Haya Hacham, s'il avait été là-bas, Noraïanigal, il n'aurait pas été sauvé. Alors, il faut ajouter un mot, là-bas, ici, maintenant, oui. Même le Racha. C'est-à-dire, là-bas, à la sortie d'Égypte, les Rachaïm sont pas sortis. Là-bas, en ce temps-là. Mais de notre temps, oui, même les Rachaïm. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Ça veut dire, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'exclus, mais c'est le problème des événements. Je ne crois pas. Je crois que nous sommes dans un temps où la foi inversée, c'est encore de la foi. Vous savez, en hébreu, mais on a besoin de dire au Navi. En hébreu, la foi, ça se dit à la fin, Amen. Et le refus de la foi, c'est la racine de Maen. Vous voyez que c'est les mêmes lettres, c'est pas dans le même sens. Bon, dites-là qu'on avance avec. C'est le refus de la foi, quand même. Le refus de la foi, c'est la fin versée. Vous savez, vous connaissez cette blague juive. La différence entre un athée goy et un athée juif, vous connaissez ça. Un athée goy, il ne croit pas que Dieu existe. Un athée juif, il croit que Dieu n'existe pas. C'est de la foi inversée. Et c'est très différent, vous voyez, pas une blague. C'est très très différent. Bien, alors on revient au... Si je veux... Je ne vais pas raconter le fameux verset, croyez et multipliez. Alors, revenons à notre problème. À quel moment de l'enseignement nous étions? C'est que le verset nous dit qu'il est nécessaire pour que la sortie d'Égypte puisse se faire, que Moïse, qui l'a déclenché, emporte avec lui les ossements de Joseph. Vous vous rappelez à quel niveau nous étions? Et là, c'est un problème extrêmement important. Alors, je vais essayer de vous décrypter un peu, puis on rentrera dans le verset un peu plus profondément. Vous avez bien compris que Joseph a prévu la sortie d'Égypte. Et non seulement il l'a prévu, mais il a adjuré, fait jurer ses frères qui fassent jurer leurs enfants. Nous étions dans Rachi, Achver, Aishbiya. Vous vous rappelez de ça? De ne pas laisser ses ossements en Égypte. Je vais vous donner une explication que je vais faire simplement par raisonnement parce que je n'ai pas de référence à vous citer. Si j'en ai une, je vous l'enverrai par télégramme. Si vous en trouvez une, vous m'envoyez un télégramme. La poste marche. Vous...
Très bien.
Bon. Et voilà l'explication que je vous propose. C'est que c'est Joseph qui a inauguré l'aventure de l'exil. S'il reste là-bas, ça voudrait dire que c'est une aventure coupée du deuxième moment, le retour. Une aventure en soi, qui a échoué mais qui s'est perdue. Et ça veut dire qu'a priori, il ne pensait pas revenir. Le fait que Moïse, qui déclenche le retour, emporte les enfants de Joseph, ça réhabilite Joseph. Est-ce que c'est clair? Et alors on peut dire Joseph a tzadik. Sinon, on l'accuserait d'être achar, c'était le procès de ses frères. C'est clair? On l'accuserait d'être prêtre. Tu as choisi l'Égypte. Dis non, j'ai choisi l'Égypte parce que j'ai une tentative avec l'Égypte. Mais si elle échoue, il prophétise qu'elle va échouer. Si elle échoue, ramenez mes ossements. Et là, le Midrash intervient. Qui était là à la conférence de M. Messard? Oui. Vous rappelez qu'il a touché un peu à cela. Qu'il fallait que Moïse, sauvé des eaux, sorte le cercueil de Moïse et du Nil. De Moïse, Joseph. Je me suis encore trompé comme lui, d'ailleurs. Moïse et Joseph, c'est lui. Vous vous rappelez de ça? Il fallait qu'il sorte la forme de Joseph des eaux du Nil. Il n'a pas dit ça exactement comme ça, mais c'est cette source-là. Et qui était Joseph? C'est l'Hébreu prenant l'habit de l'Égyptien. Mais il savait ce qu'il faisait. Et le texte nous prévient, attention, il reste hébreu. Il n'y a que ses frères qui ne voient pas qu'il est hébreu. Mais les Égyptiens le savent. Vous vous rappelez de ça? La preuve, c'est quand il les a reçus, il s'est préparé un repas, vous vous rappelez? Et le verset nous dit, on a servi les Hébreux tout seuls, les Égyptiens tout seuls, et Joseph tout seul. Pourquoi? Parce que c'est une abomination pour les Égyptiens de manger avec les Hébreux. Et c'est pour ça que Joseph ne mangeait pas avec eux. Il savait qu'il était. Les Égyptiens ne mangeaient pas cachés. Mais Joseph représentait l'Égypte. Les Égyptiens savaient qu'il était hébreu. Mais les Hébreux ne savaient pas qu'il était hébreu. Ok? Bon. Ça me rappelle une blague israélienne, je vous racontais en français. Vous savez qu'en israélien, il y a des Juifs qui ne croient pas. Okay? Alors, un jour, il y avait une réunion où un Juif pieux devait faire réunion avec un Juif pas pieux. Et c'était l'heure de dîner. Alors le Juif pieux a invité le Juif pas pieux au restaurant. Cachère. Alors l'autre a dit, allez, c'est pas grave, je prendrai deux œufs sur le plat. Alors,
Pourquoi est-ce que Joseph a fait promettre à ses frères?
Attendez, mais vous me rappellerez le commentaire de l'histoire. Okay.
À ses fils, il a fait promettre à ses frères et pas à ses fils d'emporter ses
vêtements. Ah, très bien, c'est une bonne question. Et parce que, le Midrash répond, parce que l'Égypte a adopté Joseph, c'est à lui, c'est à eux, ok? Et les descendants de Joseph, c'est Joseph de l'Égypte. Et par conséquent, ce n'est qu'au moment où l'exil prendra fin pour les Hébreux, les frères de Joseph, qu'il pourra y avoir. Mais j'ajoute ceci, après je vous donnerai le commentaire de l'histoire, hein. C'est que, vous voyez, Joseph, c'est donc l'Hébreu s'habillant en Égyptien pour une certaine mission que la Torah nous raconte, et il faut la comprendre, qu'il y a là encore la préfiguration de notre histoire. Nous sommes perpétuellement ce Joseph, soit sur le trône, soit dans la fosse. Soit dans la fosse, soit sur le trône. Soit sur le trône, la fosse au trône. Vous avez tout vu. C'est l'histoire de Joseph, c'est l'histoire type du juif de diaspora.
L'histoire de
Joseph,
il y a déjà la vision de Daniel.
Attendez, je vais arriver après aux ossements. Pour le moment, je vous parle de l'histoire de Joseph. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Quand sa mission est reconnue, il est sur le trône. Quand sa mission n'est pas reconnue, il est en train de concentration. Comment ça marche, qui est responsable de quoi, c'est à étudier dans ce texte-là. Bien. Et c'est tout le problème de sa relation avec la femme de Poutifar, si vous avez bien compris ce qu'il dit, pas dans le texte. Mais arrive le temps où c'est Moïse qui déclenche la deuxième étape. Or, qui est Moïse? C'est ce Joseph, c'est-à-dire l'Hébreu déguisé en Égyptien, qui va enlever le déguisement égyptien. C'est clair. Vous voyez la relation étroite qui entre l'identité Moïse et l'identité Joseph. Et lorsque Moïse emporte avec lui les ossements de Joseph, il réhabilite Joseph. Yosef était tzadik. Alors, et vous avez un message très, très important, tous les Hébreux étaient occupés à accomplir une toute autre promesse. C'est que Dieu avait dit à Abraham, quand vous sortirez plein de valeurs. Alors ils étaient occupés à ramasser ces valeurs pour sortir avec. Et le message dit, Moïse ne s'occupait pas de ça. Moïse cherchait où était le cercueil de Joseph. Par hasard, il était dans le Nil, dans les eaux. Oui, par hasard. Pas par hasard. C'était la manière dont les Égyptiens honoraient leur Dieu. en les modifiant et en les adorant et en les situant dans ce qu'ils adoraient. Bon, je dis ça très rapidement. Et le Midrashi, déjà au temps de Jacob, pourquoi Jacob a demandé tout de suite d'être amené? Il y a deux Midrashi, mais je cite que celui qui se rattache à l'antivé avec le Maharal. La différence, c'est que Jacob est remonté tout de suite à sa mort, alors que Joseph ne sera remonté qu'à la sortie d'Égypte, et que c'est un cas particulier parce que...